Je suis à l'hôtel Cornavin à Genève avec Gaïa Gigi. Mahaba.
Ahlen.
Vous venez d'arriver à Genève parce que ce soir, oui. Il y a l'avant-première du film, mon tissu préféré, qu'on a pu découvrir pour ceux qui étaient sur place à Cannes 2018, qui sera ce soir donc proposé au public en votre présence. Vous pourrez discuter avec les spectateurs présents. Mon tissu préféré, on retrouve Nala, une jeune femme de 25 ans qui vit, on sent les prémices de la guerre qui n'est pas encore déclarée, en Syrie, votre pays natal. Et Nala vit dans une sorte de huis clos avec ses deux sœurs, sa mère, qui sont toutes très différentes comme femmes. Et puis, on sent qu'elle est tiraillée entre à la fois peut-être un mariage avec un expatrié syrien qui veut aux États-Unis, Samir, ou ses, disons, désirs de vivre une certaine liberté dans la mesure du possible et de sortir un petit peu des carcans de la tradition. Comment est né le film Mon tissu préféré, qui est votre premier long métrage ?
Pour moi, la jeunesse d'un film se construit toujours de plusieurs choses, en fait. C'est des films qu'on avait vus, de notre vécu, des expériences des gens autour de nous. Voilà, pour moi, c'était tout ça. D'abord, il y avait le film Belle de jour de Luis Buñuel, c'est un film que j'ai vu très jeune, qui m'a beaucoup influencé. Voilà, cette femme qui s'ennuie dans sa réalité, dans sa vie, et qui recherche à vivre autre chose complètement différente. Et puis voilà, d'une certaine façon aussi, Nala, c'est un peu moins dans son parcours intimiste et émotionnel et psychologique pour trouver son émancipation. Bon, c'est pas une autobiographie, mais c'est un film très personnel, et c'est aussi des expériences des femmes que je connais autour de moi.
Donc justement, ces trois femmes, les trois sœurs sont très différentes. On a dit en début d'interview que Samir, l'expatrié syrien aux États-Unis, vient pour en fait Nala, mais il va choisir sa petite sœur, qui semble plus docile, peut-être plus soumise, qui a moins de velléité d'émancipation. On voit que Nala, à la fois, elle hésitait pour ce mariage, mais en même temps, c'est un choc pour elle.
Au début du film, elle a un petit tiraillement entre ce mariage et ce qu'elle vraiment a envie de vivre, parce que bon, à un moment, elle se dit, oui, ça peut être une issue pour moi pour quitter la Syrie. Mais au fond d'elle-même, elle sait très bien, c'est pas ce qu'elle veut, et c'est pas l'homme qu'elle désire, avec qui elle a envie de passer sa vie. Elle lui fait peur, parce que c'est une femme à un fort tempérament. Donc Samir, il la désire, mais il a peur d'elle, donc il va choisir sa sœur qui est plus docile, en fait. Donc voilà, pour moi, Nala, enfin, elle vit un tiraillement, mais elle va très vite assumer ce tiraillement, en fait, et il va très bien se rendre compte que c'est pas ce mariage et partir aux États-Unis avec cet homme, c'est pas son rêve, enfin, ses rêves, c'est ailleurs.
Et à propos de rêves, vous avez des parts du film qui sont très oniriques, d'autres beaucoup plus en plan fixe. Par exemple, quand on est dans le huis clos avec ces femmes, on est sur leur visage, sur leur intimité, sur ce huis clos. Et puis après, on va quand même dévoiler aux auditeurs que Nala va aborder sa voisine qui vient de s'installer, qui est une femme apparemment de tête aussi. Je n'osais pas le dire. Et puis, il y a toutes les pensionnaires de la maison close. Et puis, elle va être accueillie là, où elle va louer une chambre. Et là, on ne sait pas si c'est un amant rêvé, si c'est symbolique de ses souhaits. C'est très onirique. Vous avez choisi d'un côté donc, des plans plus frontaux, et de l'autre, ce côté onirique.
Pour moi, il y avait trois niveaux, en fait, dans le film, et chaque niveau imposait aussi un visuel différent. Par exemple, moi, je voulais que l'appartement familial soit dans un dans un réalisme, en fait, que ça soit par le décor, les couleurs, le cadrage aussi, des plans fixes et enfermer ces personnages dans ces plans fixes. Après, on a le monde rêvé avec l'homme blanc qui fait un peu le prince charmant. Donc là, on a des images avec des couleurs beaucoup plus douces. On est beaucoup plus large avec les plans. Et puis, chez Madame Gigi, où c'est plus sa balance, en fait, entre la réalité et le fantasme. On ne sait pas. Et moi, j'ai pas voulu répondre, en fait, aussi à cette question. C'est que voilà, on est entre la réalité et les fantasmes. Et là, pour moi, quand même, la caméra chez Madame Gigi bouge différemment. Ça veut dire, là, elle va avoir plus de liberté. Parce que pour moi, j'ai voulu que la caméra soit comme la voix intérieure de Nala. Donc, dans l'appartement familial, elle est fixe. Il y a des plans, voilà, fixes. Et dans l'appartement de Madame Gigi, la caméra aussi devient plus libre, comme le personnage.
Madame Gigi, c'est là donc la mère Macrel qui tient cette maison close. Elle s'appelle comme vous, elle a le même patronyme.
Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on me pose toujours cette question-là. Et moi, c'était une sorte d'autodérision, en fait. C'est moi, quand j'étais petite, j'avais toujours un problème avec mon nom. J'étais parfois le but de beaucoup de moqueries, enfin, de mes amis. Et pour moi, c'était une sorte d'assumer un peu ce nom et dire que voilà, moi, j'assume mon nom et je le donne même à une maquerelle, en fait.
Donc, ce n'est pas quelqu'un de la famille, on est bien d'accord.
Non, pas du tout.
On comprend, dès le départ, on la voit travailler dans une sorte de boutique de vêtements. Elle n'est pas épanouie dans ce qu'elle fait, évidemment. Puis on comprend par des bribes qu'il y a les prémices de ce qu'on va appeler les événements, mais la guerre en Syrie. Là, justement, vous vouliez parler de la velléité de liberté, de plus d'expression du peuple syrien qui va être totalement, en fait, avorté et bafoué.
Oui, pour moi, j'ai commencé à écrire l'histoire avec le début des événements en Syrie, donc je pouvais pas du tout passer à côté, mon personnage pouvait pas passer à côté, et pour moi, la violence qui entourait Nala, ça la renvoyait avec une violence avec elle-même. Après, c'est une violence qui va la faire découvrir beaucoup de choses sur elle-même. Ça, il va lui faire affronter ses désirs, ses peurs. Mais voilà, ce combat que mène Nala pour que sa liberté sexuelle, à un moment, devient aussi un combat politique. Enfin, se transforme en combat politique contre l'homme militaire. Donc voilà, c'est enfin les deux lignes, la ligne de politique de ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe avec Nala. Ces deux lignes marchent ensemble dans le film et se convergent à la fin.
Alors justement, je rebondis sur vos propos, Gaïa Gigi. Vous parlez sa soif de peut-être de connaître son corps, sa sensualité, sa sexualité, d'où le titre. Mon tissu préféré, parce que le tissu, ça touche la peau,
exactement,
c'est un premier contact sensuel.
Exactement. Le titre, ça vient de là. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le tissu comme un symbole de sensualité, enfin, dans le film, parce qu'il y a un rapport très intime entre le tissu et notre corps. C'est ce qui touche notre corps. Et pour moi, voilà, mon tissu préféré, c'est un peu mon choix préféré. Ce que j'ai choisi pour mon corps, enfin, c'est un peu ça. Et le tissu dans le film aussi, c'est quelque chose qui prend plusieurs symboles, en fait, à des moments différents. Par exemple, d'abord, oui, c'est le symbole de la sensualité. Et puis, à un moment, quand quand la mère de Nala coupe ses vêtements pour les resserrer pour que ça soit à la taille de sa sœur, c'est comme si elle coupe enfin des parties de son corps et ces bouts de tissu deviennent comme un symbole d'esclavage en fait et de soumission
et d'agression pour Nala.
D'agression exactement. Et donc quand elle s'en débarrasse à la fin du film, c'est un peu comme et il se débarrasse de son esclavage en fait.
À propos d'esclavage, que ce soit dans le huis clos familial entre ces quatre femmes ou que ce soit chez Madame Gigi, donc avec les pensionnaires de sa maison close, il y a quand même quelque chose qui est commun, c'est-à-dire que les femmes restent quand même objectisées un peu au service des hommes.
Par rapport à ça, c'est moi j'ai choisi une maison close. C'est vrai que j'ai eu cette question-là. Enfin, c'est pas du tout pour avoir un rapport avec la prostitution. Enfin, et même c'est pour ça même j'ai essayé de créer un endroit un peu onirique en fait, parce que moi c'est enfin, cette maison close, c'est un peu symbolique aussi. C'est l'endroit où tout est permis. Et pour moi, c'était aussi comme un endroit où on voit plusieurs personnalités de la société syrienne. Donc là, j'ai pas du tout voulu aller vers une sorte, ce que vraiment la prostitution, la vraie prostitution.
C'est pas à ça que je faisais allusion, je parle de corriger. Moi, je sentais plutôt que les femmes, où qu'elles soient, elles restent quand même sujettes à de la violence à leur égard.
Moi, je trouve que au Moyen-Orient, en fait, il y a toujours une violence, en fait, vers les femmes. Même par le regard, en fait, je trouve que cette violence commence vers les femmes par le regard qu'on a sur leur corps, sur leur sexualité, en fait. La femme vient de n'importe quel milieu ou n'importe quelle religion, il y a un problème social très, très présent qui a ce regard violent vers le corps féminin.
C'est un atavisme ancien.
Un atavisme, pardon.
Donc quelque chose qui est hérité du passé, est entretenu.
C'est quelque chose qui est l'accumulation des centaines d'années, par des aspects religieux, puis des traditions, des mœurs, et qui n'ont pas changé, en fait.
Pourtant, si on voit régulièrement, on en parle moins maintenant, mais si on voit ce qui se passe en Syrie, les femmes sont un vecteur important de la résistance et de la survie.
Oui, c'est vrai que les femmes, ils avaient un grand rôle dans la révolution. Ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup sacrifié. En même temps, je trouve qu'il y a une sorte de contradiction en fait, ou une schizophrénie dans les sociétés orientales, même les sociétés qui sont en train de se révolter, parce que voilà, on apprécie ce que les femmes ont donné, ce qu'elles ont sacrifié, mais elles doivent rester enfermées dans un certain cadre en fait, et surtout quand ça arrive à leur liberté sexuelle, alors là ça devient un tabou, et même par des révolutionnaires en fait qui se battent pour la liberté de leur pays, ils vont voir le corps de la femme comme un mal en fait. Donc là je trouve qu'il y a une grande schizophrénie, parce que pour moi la liberté, enfin, on va dire politique d'un pays, peut jamais se réaliser, ou la liberté peut jamais se réaliser sans la liberté de la femme et la libération de la femme en fait dans la société.
Avec ce que vous dites, Gaïa Gigi, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en Égypte quand il y avait les manifestants sur la place Tahrir, et après on a institutionnalisé le viol dans les commissariats manuellement pour vérifier la virginité des militantes, des gens qui avaient manifesté. Donc est-ce que j'imagine que
Et c'est pour ça, moi, je dis les révolutions, dans le monde arabe, si la liberté de la femme n'était pas un des buts de ces révolutions, pour moi, ils ne peuvent jamais atteindre en fait leur but ultime, en fait.
Vous connaissez peut-être Carla Del Ponte, la procureure qui était au tribunal international à La Haye, qui s'est occupée du conflit aux Balkans, à l'époque de l'ex-Yougoslavie.
Non,
s'occupait
je ne connais pas, oui.
Carla Del Ponte, elle est de Suisse, du Tessin, qui s'occupait du Rwanda. Elle avait comme mission de s'occuper du dossier de la Syrie. Elle a travaillé là-dessus pendant 6 ans. Et c'était la première fois que ça lui arrivait. Elle nous avait dit, j'arrête de m'occuper de la Syrie parce qu'il n'y en a pas de volonté internationale de venir en aide au pays et d'arrêter ce qui se passe en Syrie.
En tant que Syrienne. Ouais, je pense que je suis totalement d'accord avec elle.
Retenez son nom, Carla Del Ponte.
Carla Del Ponte, je retiens très très bien. Et parce que ce qu'elle dit, c'est très juste. C'est vrai que là, on a abandonné la Syrie. Enfin, je trouve quand même on l'a abandonné dès le début. C'est juste, on avait fait un chaos médiatique autour pendant quelques années. Et maintenant, voilà, on n'en parle presque plus.
Comme le Yémen.
Voilà. Et c'est beaucoup moins médiatisé. Et voilà, enfin, moi, ce qui me fait le mal le plus, c'est que si on en parle comme si ça a été réglé. Enfin, on dit que c'est pas le cas.
Voilà, justement, en tant que Syrienne, j'imagine que vous avez encore beaucoup de gens en contact avec vous qui sont sur place. Qu'est-ce qu'on vous dit de la situation en général du peuple syrien actuellement et des femmes en particulier ? 8 ans après le début.
Les gens sont déprimés. Voilà, ils sont très déprimés. Et vraiment, ce qui est triste, c'est que maintenant, les gens en Syrie, ils sont arrivés à un stade que, voilà, ils n'ont plus de rêve. Ils n'ont plus de but, même ils s'en fichent si le régime change ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le minimum des besoins de la vie quotidienne, en fait, comme le gaz, l'électricité, les médicaments, la nourriture. Voilà, donc quand on n'arrive pas à avoir nos besoins primaires, fondamentaux, c'est difficile de penser à autre chose. Et là, il y a vraiment une grande sorte de dépression là-bas.
Et justement, par votre film, on a quand même justement la vie d'une jeune Syrienne qui rêve de liberté simplement au début des événements. Si c'était Nala aujourd'hui, on la verrait encore différemment.
Vous voulez dire entre 2011 et
2019.
C'est vrai que bon, moi j'ai laissé la
protagoniste,
la fin un peu ouverte, mais moi je vois Nala, si je la vois maintenant en 2019, je la vois, si elle est en Syrie, je pense que ça sera le même conflit, en fait, ça sera peut-être le même film, mais avec des dates différentes. Mais moi, même si j'ai laissé ça ouvert à la fin du film, mais moi, je vois Nala en 2019 réfugiée dans un pays européen, en train de faire une nouvelle vie, loin de sa mère et loin de sa famille.
À propos de réfugiés, on sait qu'au Liban, il y a 1 million de réfugiés syriens. Qu'ils veulent malheureusement détruire les camps parce que ce sont des camps qui sont en train de devenir provisoires. Et ça s'est passé il y a de nombreuses années avec les Palestiniens qui sont restés au Liban. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? C'est assez dramatique que le Liban prenne une telle décision.
Oui, mais ça ne m'étonne pas en même temps, en fait, parce que bon, les relations entre le Liban et la Syrie, c'était des relations toujours tendues. Enfin, bon, on connaît l'histoire aussi de, je vais dire, l'occupation syrienne au Liban, ce qui est honteux. Mais le problème, c'est que c'est maintenant ces gens, ces réfugiés qui payent, en fait, les frais de cette occupation, en fait, qui payent maintenant les frais avec un racisme, un grand, grand racisme des Libanais contre le peuple syrien, et un racisme qui n'existe pas, par exemple, en Jordanie, en Égypte, où il y a aussi une grande communauté des réfugiés syriens. Et moi, je trouve que c'est juste une situation très triste. Et ce qui est le plus triste, que maintenant, les partis politiques au Liban, ils essayent d'utiliser ces réfugiés comme des cartes de jeu, en fait.
Pour attirer leurs électeurs.
Il y en a qui veulent les renvoyer en Syrie, il y en a qui veulent les garder en Liban. Et ça, c'est chacun pour ses intérêts, les intérêts de son parti, en fait.
Alors, Gaïa Gigi, on sait que la situation en Syrie ne permettait pas que vous tourniez là-bas. Mm. Vous pouvez nous dire comment vous avez pu tourner? Parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même des images qui parlent de la Syrie.
Moi, j'ai tourné à Istanbul parce que, oui, c'était pas possible. C'était impossible de tourner en Syrie. Et donc, j'ai tourné à Istanbul. Et alors, les images qu'il y a dans le film, au début du film, ce sont des images que j'ai trouvées sur YouTube. Il y a quelques petits extérieurs dans le film que j'ai pu tourner à Istanbul. Mais les images qu'on voit de Damas, tout ça, c'était
des
images de YouTube, parce que moi, j'avais envie de voir ma ville, en fait, dans le film.
Où vous êtes née ?
C'était où je suis née, exactement, et où les événements du film se passent aussi. Et pour moi, c'était vraiment un grand traumatisme et une grande tristesse de ne pas pouvoir tourner mon film là-bas. Mm.
Actuellement, vous vivez en France. Mm-hmm. Vous avez étudié à Sorbonne 8.
À Paris 8.
Paris 8. Oui. Mais à Koulpa. Et est-ce que vous êtes amenée à rentrer de temps en temps en Syrie quand même ?
Non, depuis 2013, je n'ai pas été. Et voilà, pour le moment, je n'ai pas l'intention en fait d'y aller. Mais j'ai un rêve. Un rêve de pouvoir un jour tourner un film en Syrie.
Mabrouk. Et vous avez encore de la famille là-bas, n'est-ce pas ?
Non, pas vraiment. Non. Ils sont tous partis.
Ils sont tous partis. Un autre rêve, celui des Syriens, c'est pouvoir enfin retrouver un pays qui était en paix, qui était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient.
Oui, exactement. Enfin, c'est construire une nouvelle vie, voilà, par exemple en Suisse ou dans d'autres pays en Europe. Justement, c'est le sujet de mon prochain film, en fait, que je suis en train d'écrire maintenant, qui parle aussi d'une réfugiée syrienne qui essaie de construire une nouvelle vie dans le pays d'exil. Qu'est-ce que c'est un pays d'exil? Comment vivre l'exil? Comment vivre l'amour dans l'exil, tout en laissant une grande partie de nous dans notre pays natal.
Donc une renaissance, une nouvelle vie, tout en gardant la mémoire.
Voilà, exactement. C'est ça le sujet de mon prochain film.
Et il était déjà question de mémoire dans mon tissu préféré, d'ailleurs. Petit peu.
C'est juste un moment où, quand elle parle de la nostalgie, en fait, quand elle parle de la nostalgie et la différence entre la nostalgie et l'amour, en fait, parce que pour Nala, voilà, comme... Pour moi, j'ai toujours rêvé de quitter la Syrie, en fait, pour aller réaliser mes rêves ailleurs. Mais la Syrie, pour moi, c'est mon enfance, en fait. Et la nostalgie vient de là, en fait. C'est la nostalgie pour l'enfance, pour des rues, des quartiers, des endroits, des odeurs, exactement, qui
me
manquent. Voilà.
Exactement. Qui sont toujours différentes quand on les mange à l'étranger, par exemple.
Exactement, oui, tout à fait, ça n'a rien à voir.
Une petite question personnelle qui m'a intriguée dans le film. Nala dit à maman, à sa maman, je t'ai jamais vu pleurer.
Ouais, peut-être parce que moi, j'ai jamais vu ma mère pleurer. Enfin, c'est les femmes, en fait, orientales, surtout, enfin, les mères qui sont... Enfin, qui ont des familles et tout, ils sont des femmes avec une certaine dureté, je trouve. Mmh. Je pense aussi parce que elles aussi, elles ont vécu beaucoup de pression. Mmh. Elles ont dû se battre tout le temps, ce qui fait des femmes avec un fort caractère, mais avec un peu de dureté aussi.
Qui n'expriment pas leurs sentiments.
Et qui n'expriment jamais leurs sentiments, en fait.
Et dernière question, avant de vous laisser vous préparer pour la projection ce soir, de mon tissu préféré ici à Genève, le français, parfait.
Merci. Ça, j'ai appris le français, enfin, quand j'étais petite, à l'école comme deuxième langue. Et après, bien sûr que je l'ai perfectionné plus en France, en faisant mes études et puis en travaillant.
Mabrouk.
Merci, choukran.
Et merci pour cette rencontre,
choukran,
Gaïa. On attend impatiemment le deuxième film.
Ouais, merci.
Afouane.